Bon, il y a un homme qui est mort. Ben, il avait 100 ans, il a tenu l'économie américaine à bout de bras pendant 20 ans, et le marché, ben, ce lundi matin, il a à peine haussé les épaules. Bon, en même temps, vous me direz, le marché se fout de tout en ce moment, sauf de la paix dans le monde, hein. Pas parce que ça va faire disparaître la faim dans le monde, mais surtout parce que ça va faire baisser le pétrole. Pendant ce temps-là, Google a perdu 269 milliards de market cap en une seule séance. SpaceX, l'IPO du siècle, était déjà de retour au guichet pour venir emprunter de l'argent, et le Nasdaq a dégringolé de 1,3%. Bienvenue en 2026, où tout se passe en même temps, où rien n'a de sens, et où le seul truc cohérent, ben, c'est l'incohérence. Je m'appelle Thomas Veillet, bienvenue dans ce Morning Bull Live, et nous sommes le 23 juin 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alan Greenspan. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alan Greenspan a présidé la Réserve fédérale américaine pendant 19 ans, sous Reagan, sous Bush père, sous Clinton, sous Bush fils. Quatre présidents, deux décennies, une économie mondiale à gérer. Eh ben, il est mort dimanche soir à 100 ans. En ce qui me concerne, moi-même personnellement tout seul, il m'a donné ma première vraie claque de trader. Le jour où il a déclaré devant le Congrès que les marchés étaient dans une irrational exuberance, une exubérance irrationnelle. C'était en 1996, j'étais long 17 millions sur la tech américaine et en 30 secondes, j'ai perdu 10 ans de salaire et 20 ans de ma vie. Du coup, j'ai commencé à écrire des chroniques pour rembourser. Heureusement, la baisse a été de courte durée et le bull market a donc repris aussi sec. Donc, même quand il avait raison, le timing était quand même raté. Alan Greenspan, en fait, son vrai héritage, celui qui nous concerne tous aujourd'hui, encore aujourd'hui, en ce moment, en 2026, c'est ce qu'on appelle le Greenspan Put. L'idée est assez simple, hein. Après le crash de 87, Greenspan a injecté des liquidités en masse pour sauver l'économie, le marché est reparti, et à partir de ce moment-là, les traders ont compris un truc, un seul truc, mais un truc énorme, un truc qui a changé la finance pour toujours. Ce truc, c'est que si ça tourne mal, bah, la Fed intervient, interviendra toujours. Il y aura toujours quelqu'un pour ramasser les morceaux. Donc autant prendre des risques, parce que la Fed ne nous laissera jamais mourir. Bulle Internet, taux trop bas, trop longtemps, la Fed a sauvé. Lehman Brothers, injection historique, la Fed a sauvé. Covid, bilan de la Fed qui explose, sauvé, encore. Et aujourd'hui, avec Kevin Warsh aux commandes, la question que Greenspan lui-même se posait en 2014, comment dégonfler le bilan de la Fed sans faire exploser les marchés? Eh bien, c'est exactement la même question qu'on se pose encore aujourd'hui. 12 ans plus tard, comme si on tournait rond, la roue tourne, la dette monte et le put de la Fed est toujours là. Greenspan est parti à 100 ans en ayant survécu à tout ce qu'il avait lui-même créé et c'est quand même une forme d'ironie, j'ai envie de dire presque parfaite. Bon, maintenant on passe à quelque chose de plus, disons, immédiat. L'évaporation de 269 milliards de dollars. Bah, c'est un poil moins que ce que les ricains vont devoir filer aux Iraniens pour reconstruire ce que les ricains ont cassé en Iran. Comme disait l'autre, quand tu casses, tu payes. Bref, c'est 269 milliards de capitalisation boursière effacée en une journée, évaporée. Parti, pouf, disparu de la capitalisation boursière d'Alphabet. Alphabet, la maison mère de Google. C'est la plus grosse destruction de valeur en une seule séance de toute l'histoire d'Alphabet. Et la cause? Une fraude massive? Un scandale comptable? Des résultats catastrophiques? Non! Que nenni! Deux démissions. Juste deux démissions. Tout d'abord, Noam Shazir, co-dirigeant du modèle Gemini chez Google DeepMind. Google l'avait récupéré via le rachat de Caractère AI, une opération avec une bricole de 2,7 milliards. Il repart direction OpenAI. Et comme si ce n'était pas suffisant pour torturer les actionnaires, John Jumper annonce également son départ la même semaine. John Jumper, rien à voir avec le cheval de Lucky Luke, hein. C'est juste un prix Nobel, rien que ça. Donc il a pris son prix Nobel et il est parti chez Anthropic. Le marché a répondu en envoyant Google chercher les moins 5% en clôture. Amazon, Microsoft, Meta, tout le monde a pris des claques dans la foulée et le Nasdaq a reculé de 1,3%. Maintenant, vous vous dites peut-être, deux départs, est-ce vraiment suffisant pour déclencher ça? Ben, la réponse est oui. Oui, parce que depuis 2 ans, ce qui invente un bear case sur Google, c'est le scénario catastrophe que les sceptiques agitaient. C'était exactement ça. Et si les meilleurs cerveaux partaient à la concurrence? Tant que c'était théorique, les investisseurs haussaient les épaules. Le jour où ça devient réel, avec des noms, des destinations précises. Là, du coup, c'est plus théorique du tout. Google a dépensé des dizaines de milliards pour être le leader de l'IA et ses propres scientifiques préfèrent aller travailler ailleurs. Ce genre de signal que le marché ne pardonne pas facilement, il faut le reconnaître. Pendant ce temps-là, parce qu'il faut quand même bien parler des taux, même quand personne n'a envie, Bank of America vient de retourner sa veste, complètement et proprement. Alors, BofA était dans le camp des pro-baisse de taux, ça, il faut s'en souvenir. Il n'y a pas si longtemps, hein. Et là, tout d'un coup, ils annoncent 3 hausses de taux d'ici décembre. Une en septembre, une en octobre, une en décembre. 75 points de base au total, ce qui ramènerait plus ou moins le taux directeur à 4,25-4,50. Et pour les baisses ? Alors, pour les baisses, on a le temps. On en reparlera beaucoup mieux d'ici 2028. Alors pourquoi ce retournement ? Bien parce que le core PCE, l'inflation que la Fed surveille vraiment, pourrait pointer à 3,5 pour le mois de mai, soit 70 points de base de plus qu'il y a un an. Et Kevin Warsh a été limpide lors de sa dernière conférence de presse. La stabilité des prix passe avant tout, le reste, le marché du travail peut attendre, l'inflation, non. Ce qui est savoureux dans tout ça, c'est que BofA était justement dans l'autre camp il y a peu, hein. Comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les imbéciles et les stratégistes aussi. Maintenant, voilà où ça devient intéressant et un peu plus inquiétant aussi. Pendant que les taux devraient monter pour combattre l'inflation, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, a enregistré 9 séances de hausse d'au moins 5% en 60 jours de bourse. Le seul précédent comparable, on le retrouve en janvier 2009 et avant ça, pendant la bulle Internet. Historiquement, ce niveau de volatilité haussière extrême ne s'est produit que pendant des marchés baissiers majeurs. Et là, l'indice est en hausse de 175% sur 12 mois, au plus haut de tous les temps. On a donc, on va dire, deux réalités parfaitement incompatibles qui coexistent tranquillement. Des taux qui devraient monter pour éteindre l'inflation et des semi-conducteurs qui s'envolent comme si les lois de la gravité avaient signé leur lettre de démission, comme les deux gars chez Google. Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un des deux à tort pour l'instant. Je vous laisse deviner qui, hein, mais Micron publiera ses résultats mercredi soir, et ça, on en reparlera. Bon, puis maintenant, alors, on va parler deux secondes de SpaceX. Oui, encore SpaceX, je sais. Alors, oui, SpaceX, le 12 juin, il y a 10 jours, l'IPO la plus grande de l'histoire de l'humanité, blablabla, blablabla, 85 milliards levés, Elon Musk triomphal, les médias en transe, le prix de l'action à $225 au sommet, et les shorts en PLS. Ce lundi, 10 jours après, SpaceX est retourné sur les marchés pour, tenez-vous bien, emprunter de l'argent. Oui, parce qu'elle a besoin de cash pour rembourser un bridge loan de 20 milliards qui arrive à échéance en septembre 2027. La boîte avait 100 milliards de cash au 19 juin. Ça ne suffit pas au rythme où SpaceX brûle du cash. Le titre, bah, lui, il s'est pris 3 jours de baisse consécutifs depuis le sommet. Hier soir, $154, ce qui fait une correction de 31% en 10 jours sur les extrêmes. Ne pas rire. Je vais essayer de penser à un truc triste. Ah oui, Greenspan est mort. Maintenant, soyons honnêtes, la situation n'est pas dramatique. Les analystes avaient prévenu, SpaceX suivrait le modèle Tesla, d'abord l'equity, ensuite la dette. C'est classique, c'est très classique pour une boîte qui investit à cette vitesse. Mais voilà, le problème, c'est le narratif. Quand vous vendez le concept de l'IPO du siècle, que vous attirez des millions et des millions d'investisseurs particuliers avec ce narratif de fusée, d'étoiles et de l'avenir de l'humanité sur la planète Mars, et que deux semaines après, vous faites la queue au guichet à des créanciers institutionnels, il y a un tout petit souci de cohérence quand même. Comme dira un type qui a vu beaucoup de ces histoires, le prix actuel reflète déjà tout l'optimisme possible, donc bonne chance pour la suite. Non, le matelas est très mince, hein. Très très mince. Si la réalité opérationnelle vient un jour briser le narratif de science-fiction, ça va faire mal. Bon, on finit avec le pétrole, le Brent est sous les $78, le WTI est à $74.30, la paix de Trump fonctionne. Enfin, la version Trump de la paix. Un MOU a été signé avec l'Iran, les inspecteurs de l'AIEIA reprennent du service pour le nucléaire, et puis Hormuz enregistre 71 transits confirmés. 71 transits contre 135 en temps normal. On est à la moitié quand même, hein. Et les 189 tankers bloqués dans le golfe depuis des semaines, pas un seul n'est encore arrivé à Rotterdam. L'Iran, de son côté, a déjà annoncé qu'il envisage de facturer des frais de navigation environnementale et d'assurance maritime pour le passage dans le détroit. Traduction, même quand c'est ouvert, ça ne sera plus jamais vraiment gratuit. Et les marchés pétroliers ne reviendront pas exactement à ce qu'ils étaient avant, mais ceux qui pensaient qu'un accord signé résoudrait tout en claquant des doigts, ben ils vont devoir repenser un peu leur copie. Mais enfin bon, Pour l'instant, le marché croit au deal, le pétrole baisse et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Une chose est sûre, J.D. Vance chantait victoire depuis nos monts sous le soleil qui annonçait un brillant réveil, même si on sait, vous et moi, que rien n'est terminé. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche, eh ben, le Royaume-Uni s'est réveillé lundi matin avec un Premier ministre en moins. Starmer a rendu les plaques. Nouveau gouvernement, rendement qui repart à la hausse, une situation budgétaire qui commence à ressembler à l'Italie des années 90. Les marchés européens regardent ça avec un œil prudent, l'autre étant fixé sur la BCE et sur le CPI de cette semaine. Bref, tout va bien. Voilà où on en est en ce mardi 23 juin 2026. Greenspan est parti et le put qu'il a inventé est toujours parfaitement vivant après lui. Google s'est pris une droite de 269 milliards à cause de deux démissions. SpaceX fait la manche 10 jours après l'IPO du siècle. Le Brent est sous les 78 $ grâce à une paye qui tient à moitié. Le Nasdaq recule et Bank of America nous annonce que les baisses de taux, bah, c'est pour 2028. Au mieux. C'est une semaine qui commence, il faut le dire, avec beaucoup, beaucoup de bruit quand même. Et elle va se jouer sur un seul événement, les résultats de Micron qui sortiront mercredi soir. Si les marges opérationnelles confirment les modèles qui tablent sur 70% à long terme, eh bien on aura le narratif haussier pour les deux prochaines semaines. Les semi-conducteurs repartent, tout le monde respire. Sinon, il va falloir s'accrocher quand même au pinceau pendant qu'on enlève l'échelle. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous revois demain depuis Toronto, si tout va bien. Belle journée à tous, prenez soin de vous et bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.